et c'est le journal présenté par Anne Fauquemberg. Bonsoir Anne.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. L'entrée en vigueur de l'accord de Paris sur le climat est désormais à portée de main. L'Union européenne s'est mise d'accord pour ratifier le texte via une procédure accélérée. Johanna Hochstein va nous l'expliquer au début de ce journal. L'émotion au centre opérationnel de l'Agence spatiale européenne en Allemagne. La mission de la sonde Rosetta s'est achevée ce midi sur la comète Curie. 12 ans après son lancement, les scientifiques ont encore de nombreuses données à exploiter, nous dira Sophie Becherel. Ne pas renoncer à la paix, c'est le message qui est ressorti des obsèques de Shimon Peres, enterré ce midi à Jérusalem. Notre envoyé spécial Antoine Marette nous fera revivre les temps forts. Enfin, la France. Nous ferons le point sur la répartition des bureaux de vote pour la primaire de la droite et du centre, sur la lutte qui oppose le Secours populaire à la mairie FN d'Hayange en Lorraine. Et puis nous entendrons Bertrand Louvel, le premier président de la Cour de cassation. La juridiction a organisé aujourd'hui un colloque sur la justice internationale pour les 70 ans du procès de Nuremberg. À Bruxelles, un pas important a été franchi cet après-midi pour permettre à l'accord de Paris sur le climat d'entrer en vigueur rapidement. Les ministres de l'Environnement de l'Union européenne ont ratifié le texte via une procédure accélérée, texte qui doit maintenant passer devant le Parlement, ce qui sera fait mardi prochain. La correspondance de Johanna Hochstein.
Ce que certains croyaient impossible est désormais une réalité. C'est par ce tweet que le président du Conseil européen s'est félicité de l'accord obtenu par les ministres de l'Environnement. Il est vrai qu'il y a encore un mois, il n'y avait quasi plus personne pour croire à une application rapide du texte. Des 20 pays les plus riches sur la planète, seule la France avait ratifié l'accord. Mais les choses se sont accélérées avec la ratification de la Chine et des États-Unis. Pour pouvoir rester dans la course et participer aux négociations sur les modalités d'application de l'accord de Paris, l'Europe a donc décidé d'accélérer son calendrier. Pour rappel, l'accord de Paris devait être ratifié conjointement par l'Union européenne en tant qu'entité et par ses États membres avant le 7 octobre. Or, à ce jour, seuls 5 États membres ont terminé le processus. L'accord trouvé aujourd'hui permet donc de ne pas bloquer la machine, mais il aura fallu lever un certain nombre d'inquiétudes, souligne Ségolène Royal, ministre française de l'écologie.
C'est pas quelque chose qui était gagné d'avance, parce qu'il y a des modèles énergétiques très différents d'un pays à l'autre. Donc il a fallu rassurer les uns et les autres tout en restant extrêmement exigeants et fermes sur les objectifs que l'Union européenne s'était fixés de réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030.
C'est maintenant au tour du Parlement européen de donner son feu vert pour que l'Union européenne puisse définitivement ratifier l'accord. Une étape importante parce qu'elle permettra d'atteindre le seuil des 55% d'émissions de gaz à effet de serre, un préalable nécessaire à l'entrée en vigueur de l'accord de Paris.
La fin d'une mission historique pour l'Agence spatiale européenne située à Darmstadt en Allemagne. La sonde Rosetta s'est écrasée ce midi sur la comète Curie. Les données recueillies par cette sonde grâce à l'atterrisseur Philae ont permis à la communauté scientifique de mieux comprendre comment se sont formées la Terre et les autres planètes du système solaire. Sophie Becherel, vous avez assisté à la fin de cette aventure.
L'émotion dans la salle de contrôle était palpable à 13h18 quand le signal s'est tu. Non pas un signal audio, mais un signal électrique à l'image de celui d'un électrocardiogramme qui deviendrait plat au moment de l'arrêt du cœur. Volontairement plongé vers la comète pour un crash contrôlé, Rosetta n'avait de toute façon plus suffisamment d'énergie pour continuer à travailler et transmettre ses données. Les ingénieurs ont donc répondu à la demande des équipes scientifiques, organisé un final spectaculaire avec ultime séance photo à quelques mètres du sol. Pour les responsables des instruments comme Jean-Pierre Le Breton, c'est comme si la fin de cette mission exceptionnelle les avait surpris.
On avait mis en place un site pour regarder les données de l'instrument en temps réel et je regardais aussi l'écran où on voyait le petit signal indiquant la liaison. D'un seul coup, ça disparaît. Il a fallu quelques secondes, quelques minutes pour réaliser que c'était fini. C'est vrai, j'avais le cœur qui battait un peu parce que d'un seul coup, ça s'arrête. C'est terrible, ça. Peut-être qu'on espérait que ça n'allait pas mourir aussi vite. C'est un peu un ami, une amie qui arrête de vivre, quoi. Et ça, ça fait un petit coup au cœur.
À présent, place à la science. Depuis 25 mois, Rosetta envoyait ses données, mais toutes n'ont pas encore été exploitées. Il y a du travail pour 10 ans encore et surtout pour des générations de jeunes intéressés par l'astronomie. C'est la question de la vie qui est au centre de cette mission, car si Rosetta s'appelle ainsi, c'est parce qu'on lui a demandé, comme la pierre de Rosette le fit pour les hiéroglyphes, de fournir les clés de déchiffrage de la fabrication du système solaire et donc de notre planète qui est la seule aujourd'hui à abriter la vie.
Un reportage de Sophie Becherel. L'ultime hommage à Shimon Peres, le cercueil du prix Nobel de la paix a été mis en terre ce midi au cimetière national du Mont Herzl à Jérusalem. Cérémonie en présence de nombreux dirigeants étrangers, Barack Obama, François Hollande, le président allemand Joachim Gauck. Elle a été marquée par une poignée de main entre le président palestinien Mahmoud Abbas et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Benjamin Netanyahou qui a rendu hommage à son ancien adversaire politique Antoine Maret.
L'un était de gauche, l'autre est de droite, et pourtant Benjamin Netanyahou retient de son adversaire politique l'homme de paix. Nous deux, nous voulions la paix. Pour Shimon Peres, c'est la paix qui permet la sécurité, alors que pour moi, c'est la sécurité qui permet la paix, affirme le Premier ministre israélien. Les trois enfants de Shimon Peres prennent la parole. Sa fille Via se souvient de son engagement total pour Israël.
Toute sa vie, il a été amoureux de sa famille, de l'État d'Israël. Mon cher père, tu mérites le repos.
Son fils Rémi rappelle ce moment en 1934, quand le jeune Shimon, alors âgé de 11 ans, quitte la Pologne avec une partie de sa famille. Et la promesse qu'il a faite à son grand-père restait là-bas.
Tu n'as jamais oublié que tu étais juif, comme te l'avait demandé ton grand-père. Moi aussi, je te fais la promesse de ne jamais l'oublier.
C'est au tour de Barack Obama de se diriger vers le pupitre. Son éloge sonne comme une réponse aux mots de Benjamin Netanyahou.
Certains pensent que Shimon Peres était naïf. Je ne pense pas qu'il l'était. Il pensait simplement que le sionisme serait mieux protégé quand les Palestiniens auraient leur propre État.
Mais ce matin, ce ne sont peut-être pas des mots que l'histoire retiendra, mais plutôt cette très longue et chaleureuse poignée de main entre Benjamin Netanyahou et le président palestinien Mahmoud Abbas.
Un reportage d'Antoine Maret, envoyé spécial de France Culture pour l'enterrement de Shimon Peres à Jérusalem. Il y a 70 ans, les 30 septembre et 1er octobre 1946, le tribunal de Nuremberg condamnait les plus hauts dirigeants nazis pour l'un des plus importants procès de l'histoire. Sur les 24 hommes jugés, 12 ont été condamnés à mort, un procès qui a jeté les bases d'une justice universelle. À cette occasion, la Cour de cassation a organisé un colloque aujourd'hui sur le crime contre l'humanité. Pour Bertrand Louvel, le premier président de la juridiction, Nuremberg reste le premier jalon d'une justice en construction.
Nuremberg se situe à un moment où l'horreur du phénomène de la guerre atteint un point maximal dans l'humanité. Et donc, on ne peut plus régler ce type de différend qu'est la guerre simplement par le sort des armes, en prenant acte de ce qu'il y a des vaincus et des vainqueurs. Il faut que ceux qui sont responsables de ce qui s'est passé, ceux qui sont à l'origine de ces crimes, de ces horreurs, rendent compte à l'humanité tout entière. C'est ça l'esprit de Nuremberg. Et c'est cet esprit qu'on ne cesse finalement de perfectionner et de développer depuis 70 ans. Le dernier jalon de cette construction, c'est le traité de Rome, c'est la Cour pénale internationale de La Haye qui a vocation à juger de façon générale les crimes de guerre et contre l'humanité commis à travers le monde. On voit bien que se met en place de façon définitive au nom des Nations Unies, au nom de ce qui fait la communauté, je dirais, de l'humanité active, des formes de réaction collective aux actes de guerre insupportables. Pas simplement parce qu'on pense toujours au passé, évidemment, mais à ce qui se passe aujourd'hui et à ce qu'il faut prévenir dans l'avenir. Les horreurs qui sont commises aujourd'hui dans certains pays, on pense tous à la Syrie, évidemment. Ces horreurs-là, elles ont vocation, c'est évident, quand les armes se seront tues, à ce que l'on fasse les comptes et à ce que les responsables soient jugés par cette justice internationale qui continue de se mettre en place.
Une interview signée Florence Sturm sur notre site internet. Un dossier est en ligne avec un focus sur l'évolution de cette justice internationale depuis Nuremberg. Rendez-vous sur franceculture.fr. Toujours concernant la Syrie, alors que la campagne aérienne russe a été lancée il y a un an, jour pour jour, dans le pays pour soutenir le régime de Damas en difficulté, l'organisation Médecins sans frontières dénonce un bain de sang cet après-midi. Depuis un an, cette campagne aérienne russe a fait 9364 morts, dont 3804 civils, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. MSF appelle Moscou et Damas à mettre fin aux frappes, notamment sur les quartiers rebelles à l'est d'Alep, frappes. Des frappes qui visent aussi les hôpitaux. Evita Mouad, conseillère humanitaire de MSF pour le Moyen-Orient, est jointe à Amman, en Jordanie, par Valérie Crova.
Deux hôpitaux soutenus par Médecins sans frontières à l'Est d'Alep ont été complètement détruits mercredi dernier dû au bombardement aérien intense. Deux employés des équipes médicales ont été gravement blessés et un patient est décédé. Ces deux hôpitaux fournissaient des services de chirurgie essentiels. Ces services sont désormais énormément rares à Alep. La situation humanitaire et médicale à l'Est d'Alep est vraiment critique. Les habitants et médecins de la ville subissent actuellement des bombardements aériens intenses et quotidien depuis que le siège a été mis en place en juillet dernier. Et c'est vraiment des bombardements encore plus intenses que ceux que nous avons vus précédemment. On a des hôpitaux soutenus par MSF qui ont été bombardés deux ou trois fois dans un même jour avec beaucoup de médecins et de patients qui ont été blessés. C'est vraiment la vague de violence la plus intense subie par Alep depuis le début de la guerre syrienne et du siège d'Alep. Entre le 21 et 26 septembre, les hôpitaux ont indiqué avoir reçu plus de 800 blessés, dont au moins 200 enfants et plus de 200 morts. Donc c'est vraiment des nombres énormes pour une période de moins d'une semaine. Et cela nous montre vraiment que les bombardements sont extrêmement intenses en ce moment. Nous ne savons vraiment pas comment les équipes médicales sur le terrain seront en mesure de continuer à répondre à cette situation sans le soutien médical approprié.
C'est la dernière place forte de l'État islamique en Irak. Pour la coalition internationale et les troupes irakiennes, l'heure est à la mobilisation pour reconquérir Mossoul. 8 avions de chasse Rafale ont été déployés ce matin depuis le porte-avions français Charles de Gaulle qui stationne en Méditerranée orientale. Bonsoir Éric Bégala.
Bonsoir Anne.
Cette intervention du Charles de Gaulle, c'est une pierre à l'édifice international qui est en train de se mettre en place.
Oui, le déploiement du Charles de Gaulle sur zone est prévu pour durer un mois, en gros le mois d'octobre. Il y a donc fort à parier que l'offensive finale contre Mossoul, la capitale irakienne de l'État islamique, sera lancée ces prochaines semaines, peut-être même ces prochains jours. Les Occidentaux, l'armée irakienne et les Peshmerga kurdes fourbissent tous leurs armes en préparation de cet assaut. Les Américains viennent d'annoncer le déploiement en Irak de 600 soldats de plus, portant à plus de 5000 hommes leur présence sur le terrain irakien. De l'artillerie américaine a également été récemment déployée en prévision de l'assaut sur Mossoul, notamment des lance-roquettes HIMARS à longue portée et très forte précision. Les Français ont également disposé en appui 4 batteries de canons automoteurs Kaiser, non loin de Mossoul. Et puis il y a depuis hier la présence donc dans le ciel des 24 appareils d'attaque du Charles de Gaulle. En fait, la guerre contre l'État islamique à Mossoul a même déjà commencé d'une certaine manière puisque les appareils de la coalition, avions ou drones, opèrent régulièrement des frappes précises visant spécifiquement l'un ou l'autre commandant militaire ou cadre administratif de l'État islamique et ce en pleine ville. Avant-hier, le porte-parole de la coalition internationale précisait même que 13 de ces cadres avaient ainsi été neutralisés par des frappes aériennes à l'intérieur même de Mossoul durant le mois écoulé. Mais pour que la bataille de Mossoul puisse effectivement s'engager, il faut en fait que les troupes au sol, c'est-à-dire l'armée irakienne et les Peshmerga kurdes, soient à pied d'œuvre, positionnées sur des bases d'assaut suffisamment proches. Pour les Peshmerga, c'est chose faite depuis longtemps. Pour l'armée irakienne, qui sera le véritable fer de lance de l'offensive, c'est encore en cours. Les soldats irakiens ont tout de même réussi à reprendre la semaine dernière la ville d'Al-Shirkat à l'État islamique, et ce en 3 jours. C'était la toute dernière localité importante tenue par les djihadistes sur la rive occidentale du Tigre avant Mossoul.
Merci Eric Bégala pour vos précisions. Plus de 10 000 bureaux de vote permettront aux Français qui le souhaitent de voter pour la primaire de la droite et du centre les 20 et 27 novembre prochains. La haute autorité de ce scrutin a mis en ligne ce vendredi un outil pour permettre aux citoyens de trouver leurs isoloirs. Bonsoir Stéphane Robert.
Bonsoir Anne.
Vous avez analysé la géographie de ces plus de 10 000 bureaux de vote. Leur répartition n'est pas anodine.
Non, puisque les organisateurs de cette primaire ont ciblé l'électorat. Pour ça, ils sont partis des résultats à l'élection présidentielle de 2012. Et ils ont implanté les bureaux de vote là où on a voté le plus massivement pour Nicolas Sarkozy, pour François Bayrou et pour Nicolas Dupont-Aignan. C'est donc bien un électorat de toute la droite qui est visé, des centristes jusqu'aux électeurs de la droite la plus à droite et la plus conservatrice. Ça a été l'objet au départ de négociations entre les différents candidats. Nicolas Sarkozy ne voulait pas qu'on se préoccupe des électeurs du Modem. Mais sous la pression de ses adversaires, notamment d'Alain Juppé, il a été dans l'obligation de céder. De la même manière, Sarkozy a tenté de faire pression pour limiter le nombre de bureaux de vote de 7 à 7, 8 000, pas plus. Comme il reste populaire et majoritaire uniquement au sein du cœur militant de la droite classique, c'était une manière d'essayer de limiter le nombre de votants. Mais là encore, ça n'a pas marché. Résultat, il y a 10 228 bureaux de vote répartis sur tout le territoire français, dont 4 700, presque la moitié qui se trouve dans 4 régions, là où on vote le plus à droite, l'Île-de-France, les Hauts-de-France, Rhône-Alpes-Auvergne et la région PACA. Un peu plus de 10 000 bureaux de vote pour une participation attendue de 3 à 4 millions de personnes. Ça donne 3 à 400 personnes par bureau de vote en moyenne. On est très nettement en dessous de ce que préconise la réglementation préfectorale en la matière, à savoir 800 à 900 électeurs par bureau de vote pour que tout se passe sans accroc. Il s'agit là d'éviter ce qui s'était passé lors de la guerre Copé-Fillon pour la présidence de l'UMP en 2012. Certains bureaux avaient été dimensionnés pour accueillir 1500 voire 2000 électeurs. Résultat, ça avait donné des files d'attente de 3 ou 4 heures et de nombreuses erreurs dans les feuilles d'émargement.
Des précisions signées Stéphane Robert. En Lorraine, le Secours populaire de la commune d'Ayange refuse de rendre les clés de son local à la mairie Front National. Mairie dirigée par Fabien Engelmal qui accuse l'association de faire, je cite, de la propagande pro-migrants. Un huissier est venu ce matin suite à une procédure d'expulsion lancée par l'élu. Décision qui ne passe pas du côté du Secours populaire qui aide plus de 750 personnes par mois. Louis-Valentin Lopez, vous avez recueilli les arguments de la commune et de l'association.
Il est 10h ce matin lorsque l'huissier de justice toque à la porte du local du Secours populaire d'Ayange. Anne Duflo-Aliévi, la présidente du comité local, refuse alors de donner les clés.
La procédure judiciaire, elle suivra son cours, nous on fera ce qu'il faut. On a les soutiens donc de la Fédération de Metz, du National. Il nous reproche de faire de la politique, de faire ci, mais ça c'est lui qui l'a fait, lui, je lui laisse à lui, ça, il sait très bien faire. Nous on n'est pas sur ce terrain-là. Nous on est sur le terrain de la pauvreté, de la misère, de la solidarité, voilà, c'est là-dessus qu'on se bat. Moi ça m'intéresse pas ces batailles à lui, non, pas du tout.
Lui, c'est Fabien Engelmann, maire FN d'Ayange depuis 2014. Alors selon l'élu, le Secours populaire ferait de la propagande pro-migrant. Il parle même d'une succursale du Parti communiste.
Les associations n'ont pas à faire de politique, cracher continuellement sur la majorité municipale, sur mon parti politique, voilà, tout ça n'a pas de sens. Cette association occupe l'illégalité la plus parfaite, sans droit et sans bail ce local. Donc tout ça ne peut plus durer.
Le président du Secours populaire, Julien Loprêtre, est choqué par les méthodes de la mairie.
Ce qui est nouveau, c'est la brutalité, parce que même à Hénin-Beaumont, vous voyez, il y a des discussions et tout ça, pour le local, pour les choses comme ça, mais avec le maire, là, c'est absolument affreux. C'est un repli sur des théories fascistes qui je croyais, n'existaient plus, mais hélas, oui, elles reviennent.
Alors pour occuper le local, plusieurs noms d'associations circuleraient, mais une aurait déjà les faveurs de la mairie, Fraternité Française, sa présidente Mireille Dornano, eurodéputée FN, la présidente d'honneur Janie Le Pen, qui n'est autre que la femme de Jean-Marie Le Pen.
Un dossier réalisé par Louis-Valentin Lopez. La Deutsche Bank est sur le point de conclure un accord avec les autorités américaines sur l'amende record réclamée par le ministère de la Justice suite à un préjudice immobilier datant de la crise financière de 2008. La banque allemande devrait finalement payer 5,4 milliards de dollars. L'action Deutsche Bank a bondi à la clôture de la bourse de Francfort. Le dossier des émissions polluantes s'est invité au Mondial de l'automobile qui a ouvert ses portes aujourd'hui à Paris. Le patron de Renault-Nissan, Carlos Ghosn, s'est dit totalement prêt à ouvrir ses logiciels de gestion des moteurs, comme l'a demandé la commission d'experts mandatée par la ministre Ségolène Royal. Commission mise en place en automne dernier après le scandale Volkswagen et qui poursuit actuellement ses investigations après un premier rapport rendu cet été. En ce qui concerne l'avenir du site Alstom de Belfort, où 400 emplois sont menacés d'ici 2018, une réunion de travail avec la direction, les syndicats et les élus locaux est prévu mardi sur le site. Un comité d'entreprise du groupe au niveau européen examinera le même jour les projets du gouvernement et de la direction au siège à Saint-Ouen. Hier, le Premier ministre Manuel Valls a confirmé au Sénat que des propositions concrètes seront faites aux salariés ces prochains jours. Une bonne nouvelle pour les bénéficiaires du RSA. Le revenu de solidarité active a augmenté de 2% au 1er septembre. Le décret a été publié aujourd'hui au journal officiel. Il entre dans le cadre du plan gouvernemental intergouvernemental de lutte contre la pauvreté du gouvernement. Donc, le montant forfaitaire mensuel passe pour une personne sans ressources à 535 €, augmentation qui repose sur les finances des départements. Enfin, à Bordeaux, des sarcophages mérovingiens ont été découverts sur le parvis de l'église romane Sainte-Croix. Première découverte de ce type près de cette église abbatiale, puis paroissiale, qui a fortement marqué l'histoire de la ville. Sarcophage en pierre calcaire décoré de stries et de croix. À l'intérieur de l'un d'entre eux, il y avait 4 squelettes. Fouille réalisée par le Centre d'archéologie préventive de Bordeaux Métropole. La météo de votre samedi, ça sera globalement nuageux. Les départements des Bouches-du-Rhône, du Gard ont été placés en vigilance orange aux orages et aux pluies pour la nuit qui arrive. Demain matin, les températures iront de 9 à 18 degrés sur les rivages du sud. L'après-midi, il fera de 16 à 21 degrés sur la plupart des régions, jusqu'à 26 degrés autour de la Méditerranée. Il est 18h20 sur France Culture, journal réalisé avec l'aide de Julien Loquet à la technique Pierrick Monsigny.